Nous allons parler dans un premier temps des troubles du sommeil dans la maladie d'Alzheimer et j'appelle le docteur Elisabeth Rupert du Centre des troubles du sommeil rattaché aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Bonjour madame, merci de bien vouloir prendre le micro et la zapette. Voilà, vous avez bien volontiers la parole et naturellement vous pourrez intervenir par vos questions et vos demandes de témoignages après l'intervention du docteur Rupert. Allez-y.
Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, on va parler des problèmes de sommeil dans la maladie d'Alzheimer. Donc, l'objectif, c'est de comprendre un peu les mécanismes qui sous-tendent la régulation de notre sommeil pour nous permettre d'avoir un peu plus d'aisance, de meilleurs réflexes afin d'améliorer le sommeil. Parce que le sommeil, c'est un point très fragile en cas de neurodégénérescence avec un patient atteint de maladie d'Alzheimer. En cas d'apparition des troubles du sommeil, c'est un facteur majeur pour l'épuisement de l'environnement aidant et souvent c'est source d'aller vers l'institutionnalisation du patient. Donc, d'abord, le sommeil, gardez en tête que c'est un processus très actif, très complexe, réglé par différents circuits neuronaux. Et ce n'est pas juste, entre guillemets, une baisse de vigilance, hein, ce qui serait plus proche d'un état comateux. Pourquoi, en fait, dormons-nous, hein, on y passe quand même un tiers de notre vie. Dans les expériences de privation de sommeil, on s'observe, même chacun a certainement déjà fait l'expérience, qu'on a mal ou peu dormi, on est plus fragile au niveau de la mémoire, on oublie des choses, l'humeur, on est facilement exécrable, irritable, plus anxieux, etc., plus facilement des palpitations, et on se rend compte, les rongeurs qui dans le passé étaient privés complètement de sommeil, ils ont fini par mourir, donc c'est vraiment une fonction vitale. Quelques brefs rappels par rapport au sommeil. Donc on distingue trois grands états de vigilance. D'un côté, l'éveil. Et dans le sommeil, on a deux sortes de sommeil différentes, le sommeil lent et le sommeil paradoxal, le sommeil de rêve. Dans le sommeil lent, on a une partie qui s'appelle le sommeil lent profond, qui vraiment permet d'évacuer la pression de sommeil, qui est particulièrement présente en début de nuit et moindre en fin de nuit. Et notre sommeil est organisé en cycles, un peu comme des wagons, qui contiennent chacun du sommeil lent, du sommeil paradoxal, du sommeil de rêve. Parfois, il y a un petit éveil entre, et ça se reproduit comme un petit train. Et globalement, on dit qu'on fait à peu près 5 cycles de sommeil par nuit. Mais il faut garder en tête que c'est très variable d'un sujet à l'autre en ce qui concerne la durée des cycles, le nombre de cycles, mais aussi la durée du sommeil. En moyenne, on dort 7-8 heures par nuit, mais il faut garder en mémoire que certaines personnes sont des courts dormeurs qui, de leur vie, n'ont jamais dormi plus de 6 heures par nuit. Quand ils passent à la retraite, qu'ils souhaitent s'ajuster sur les horaires de sommeil de leur partenaire qui dort peut-être 7-8-9 heures par nuit, ce ne sera pas possible. Et de même, il y a des longs dormeurs qui ont besoin de plus de 10 heures par nuit. Et ce qui est également important à avoir en tête, c'est que le sommeil évolue avec l'âge, hein, du petit enfant qui a besoin de beaucoup plus de sommeil. Et puis à partir de la quarantaine, le sommeil devient, il s'affaiblit, hein, il devient plus fragmenté. On perd en durée de sommeil, on perd en profondeur de sommeil. Et de l'autre côté, en ce qui concerne notre horloge biologique, hein, c'est ce qui va définir notre chronotype, hein, c'est-à-dire si on est plutôt de nature à être couche-tard, lève-tard ou couche-tôt, lève-tôt. Avec l'âge, hein, l'enfant est plutôt couche-tôt, lève-tôt, l'adolescent, l'adulte jeune va devenir couche-tard, lève-tard, et puis avec l'âge, petit à petit, on va à nouveau devenir de plus en plus matinal, c'est-à-dire couche-tôt, lève-tôt. Et ce qui est très important pour améliorer son sommeil, c'est déjà d'avoir conscience, hein, quel est son besoin de sommeil et de le respecter. Quel est son chronotype, plutôt matinal, plutôt tardif, également de le respecter et de chercher à avoir des habitudes de sommeil qui sont en cohérence avec ses besoins.
Alors, qu'est-ce qui se passe suite au vieillissement et qu'est-ce qui se passe en particulier avec la neurodégénérescence, docteur ?
Oui, donc les liens sont effectivement très complexes. Hein, avec le vieillissement, le sommeil va se fragiliser, mais avec la neurodégénérescence, on a des interactions qui sont très complexes, hein, qui sont essentiellement étudiées dans la maladie d'Alzheimer, souvent à l'aide de modèles expérimentaux avec des souris. Donc le premier principe, concept hein, qui est très récent, qui a été décrit pour la première fois vers, autour des années 2012-2013, sont une espèce de camion poubelle de notre cerveau qui est activé en sommeil lent profond, parce que dans ce sommeil, les cellules sont complètement au repos, elles vont se rétracter, elles vont excréter les toxines dans l'espace entre les cellules, et ça va permettre une espèce de drainage par convection pour éliminer les déchets du cerveau, parce qu'on n'a pas d'irrigation veineuse dans le cerveau comme dans d'autres parties du corps. Donc on se rend compte que ce sommeil long profond est important par rapport à ce nettoyage du cerveau de manière très très schématique. Et finalement, il y a une réaction bidirectionnelle réciproque, d'un côté entre le sommeil, également l'horloge biologique qui est très impliquée, et la neurodégénérescence, donc d'un côté par ce mécanisme de système lymphatique, hein, au camion poubelle, et de l'autre côté, les études montrent qu'en cas de privation de sommeil ou en cas de fragmentation de sommeil, il y a davantage de plaques amyloïdes et la bêta-42 soluble va être davantage présente. Maintenant, qu'est-ce qui est cause et conséquence dans tout cela ? Avec le sommeil, avec les troubles du sommeil, on voit qu'ils sont favorisés par le vieillissement parce que les mécanismes sous-jacents vont être plus faibles, hein, fragilisés par le vieillissement du cerveau. Ces troubles du sommeil peuvent parfois précéder l'apparition des symptômes cliniques de la maladie neurodégénérative et en même temps, les perturbations du sommeil ne font pas de bien au processus neurodégénératif et vont avoir tendance à l'accélérer. Quels sont les symptômes qui vont avec le vieillissement par rapport au sommeil? La personne âgée, elle va décrire davantage de fragmentation de son sommeil, un sommeil qui va être de durée plus courte. Elle aura un sommeil beaucoup plus léger. Le sommeil long profond va devenir de moins en moins présent, voire quasiment absent de son sommeil. Et en contrepartie, pendant la journée, la personne sera de moins en moins alerte. Il y aura de plus en plus d'accès de somnolence. Elle réalisera des siestes, ce qui est en lien avec un affaiblissement des mécanismes régulateurs du sommeil, notamment ceux qui dépendent de notre horloge biologique, qui sont des mécanismes qui sont extrêmement précieux et complexes et qui vont être fragilisés avec le vieillissement. La personne âgée va également avoir moins de pression de sommeil, comme on le verra tout à l'heure, mais après, avec l'affaiblissement global du cerveau, ces structures vont moins bien pouvoir fonctionner. Et en cas de neurodégénérescence, on observe une exacerbation de ces problèmes, avec une insomnie qui souvent est au premier plan, du retard à l'endormissement, des difficultés de maintien de sommeil, des réveils précoces, un sommeil très fragmenté, léger, parfois la présence d'éveils dissociés, c'est la personne qui paraît réveillée à un comportement moteur, mais le lendemain ne va se souvenir de rien, et un comportement quand même un peu bizarre, un peu comme un enfant somnambule. Il peut également y avoir, comme tout à l'heure évoqué par le professeur Blanc, le trouble du comportement en sommeil paradoxal, qui est plus caractérisé de la maladie à corps de Lévy, qui n'est pas présente dans la maladie d'Alzheimer pure, entre guillemets, où les personnes vont pouvoir agir le contenu de leur activité de rêve en sommeil paradoxal. Et puis on a l'atteinte de l'horloge biologique, elle sera très fragilisée, ce qui va amener à des rythmes veille-sommeil très perturbés. Le sommeil sera déconsolidé, se fera par 2-3 bouts, et aucun des bouts ne fera pas plus de 4 heures, ce qui va être très épuisant finalement pour l'entourage qui devra suivre ce rythme-là. Et un autre phénomène majeur, c'est le sundowning, le syndrome crépusculaire, avec un patient qui, au moment de la tombée de la nuit, va devenir de plus en plus agité, avoir plus d'hallucinations, plus de confusion, et ce qui peut vraiment rendre difficile son accompagnement. Maintenant, on aimerait bien savoir s'il y a ce continuum, est-ce qu'on peut agir sur cette évolution, sur ce processus neurodégénératif. On sait qu'on n'a pas de molécules de médicaments un peu magique hein, qui permet d'améliorer malheureusement les problèmes de sommeil. Et pour cela, donc, je vais vous expliquer un peu les mécanismes qui régulent notre sommeil et à partir desquels on peut voir donc, nos approches non médicamenteuses.
Alors comment justement peut-on le réguler notre sommeil ?
Donc il est régulé par différents mécanismes et on va voir comment on pourra s'en servir un petit peu dans différentes situations. Après, il faut garder en tête que chaque personne est différente. Ce qui peut mieux fonctionner chez une personne peut être moins efficace chez une autre. Donc le premier, c'est la pression de sommeil qui est cumulée pendant la journée, un peu comme un sablier qu'on appelle la pression homéostasique du sommeil. Le deuxième sera l'horloge biologique ou le processus circadien, circa environ dien une journée, parce que l'horloge fait à peu près une journée et elle sera synchronisée sur la journée, on verra comment. On a aussi des effets directs à la lumière et puis d'autres éléments qui permettent de réguler notre sommeil. Pour ce sablier, la pression cumulée en journée, on le voit très bien quand on fait ici, les heures passées réveillées, par exemple, c'est un médecin qui a travaillé toute la journée, qui la nuit enchaîne sur une garde, qui, au malheur, n'a pas droit à la récup des gardes, continue sur le lendemain, et finalement, le deuxième soir, quand il pourra dormir, il va évacuer sa pression de sommeil, un peu comme s'il a cumulé une substance sommeil tout le long pendant la journée, qu'il évacue par la suite, comme un sablier qui se remplit le temps qu'il reste éveillé. Comment est-ce qu'on peut se servir de cette pression de sommeil pour l'améliorer ? Donc, on peut l'augmenter en évitant les siestes en journée, parce que si on a des siestes prolongées en journée, petit à petit, au cours de la journée, on va déjà évacuer notre pression de sommeil et ça va nous empêcher d'avoir un sommeil de nuit profond, avec le sommeil long profond dont on a besoin par rapport à ces mécanismes bien réparateurs par rapport au sommeil. On peut également faire une petite restriction du temps de sommeil. On s'octroie un peu moins de sommeil que ce à quoi on aurait peut-être envie. Après, c'est des mesures à prendre avec précaution. Parce que parfois, on a des personnes, en cas de neurodégénérescence, quand elles sont complètement épuisées, elles vont être encore plus confuses et avoir peut-être plus de problèmes de sommeil. Après, on conseille également d'augmenter l'activité physique, qui a beaucoup de bienfaits par ailleurs. Néanmoins, par exemple, dans le syndrome crépusculaire, on ne sait pas exactement quel est le substrat pathologique sous-jacent, mais une des hypothèses, c'est que la personne est surfatiguée par la journée et que quelque part, elle décompense psychiquement et qu'elle est dans un état cognitif plus sévère le soir avec la fatigue cumulée de la journée qu'elle ne le serait, par exemple, le matin. Et puis également, très important, d'éviter les molécules, ce qui est éveillant, notamment le café avant de se coucher, le thé, et puis un piège, l'alcool baisse également la pression de sommeil, ça rend le sommeil tout fragmenté et beaucoup moins profond.
L'horloge biologique, le processus circadien, vous avez dit, cycle, et bien c'est par jour.
C'est cela, donc c'est notre horloge biologique avec un signal d'éveil qui sera émis par notre horloge biologique pour contrebalancer cette pression de sommeil qui cumule petit à petit au cours de la journée. Et en fin de journée, vous voyez, ce signal d'éveil va chuter rapidement pour nous permettre l'endormissement. Il sera minimal en fin de nuit, ce qui nous permet de dormir encore un petit peu alors que notre pression de sommeil sera déjà tout évacuée. Et puis le lendemain matin, hop, ce signal d'éveil reprend pour nous permettre de nous réveiller et de passer la journée. Donc notre horloge centrale, elle est située dans notre cerveau, derrière le chiasma optique. Donc il reçoit beaucoup, beaucoup de lumière. Et c'est très important qu'il soit synchronisé avec les horloges périphériques, afin qu'on soit un peu en harmonie avec notre corps. Et quand l'horloge centrale fonctionne mal, cet orchestre ne fonctionne pas bien. Un mot sur notre horloge, donc elle est située dans le cerveau, elle reçoit un signal par la lumière, Et notre horloge biologique, elle projette sur une glande, la glande pinéale, qui va sécréter la mélatonine, qu'on appelle aussi l'hormone du noir, ou l'hormone du sommeil, qui sera sécrétée dans la circulation sanguine pour être distribuée dans le reste de notre organisme, ce qui permet de synchroniser nos horloges périphériques avec notre horloge centrale. Ce qui est très très important à savoir, c'est que cette mélatonine, qui est sécrétée habituellement la nuit, elle va être inhibée par l'exposition à la lumière. Donc les personnes qui, la soirée, la nuit, sont exposées à des ambiances lumineuses artificielles, à l'intérieur plein de LED très lumineuses, ou à des écrans, hein, ce qui est très proche de la rétine, ça va inhiber la sécrétion de la mélatonine, ça va donner un signal à l'horloge biologique. Non, 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 on n'est pas encore la nuit, on est encore le jour, et donc l'horloge va être mal synchronisée. Et donc, notre horloge, elle a un rythme à un peu plus de 24 heures. Elle est synchronisée, elle définit notre cycle veille-sommeil, hein, qui est le rythme le plus visible, mais même l'humeur. Vers le petit matin ou au milieu de la nuit, on a parfois si on est réveillé, l'humeur est un peu plus basse. On va être moins performant au milieu de nuit. Et cette horloge, elle est synchronisée sur notre rythme universel par des donneurs de temps. Et le principal, c'est vraiment l'exposition à la lumière le matin et en journée, et le respect de l'obscurité le soir. Mais également une forte activité physique en journée, baisser progressivement en soirée et de rester calme la nuit. Également les interactions sociales.
Alors comment augmenter cette synchronisation avec notre propre rythme biologique, docteur?
Donc ce sera quelque chose de très important. Quelqu'un qui est professionnellement actif, qui a une riche vie sociale, ça se fait naturellement, mais une personne âgée qui va être moins mobile, ça se fait déjà moins naturellement, et d'autant plus peut-être une personne institutionnalisée. Donc il y a de plus en plus de prises de conscience pour stimuler ces personnes-là, pour maintenir leur synchronisation de leur horloge, pour que l'horloge puisse avoir le plus de signaux possible pour savoir quand est-ce que c'est le jour, quand est-ce que c'est la nuit. Donc c'est d'éviter l'exposition à la lumière la nuit, avec déjà une ambiance lumineuse plutôt tamisée en fin de soirée. Et au contraire, en journée, d'aller dehors, de s'exposer à la lumière, hein, ce qui n'est pas toujours évident chez la personne âgée. En plus, elle peut avoir une cataracte, hein, donc un cristallin qui ne laisse plus passer beaucoup de lumière, ou en institution, où parfois l'éclairage artificiel va être très faible. Donc elle aura de moins en moins de donneurs de temps. Après, en ce qui concerne la mélatonine, c'est un peu plus complexe, donc de faire attention, libération immédiate, libération prolongée, à quel moment la prendre. Et ce qui va être très très important, c'est l'activité physique, hein, d'avoir une activité régulière en journée pour être fatigué, mais également respecter le calme en soirée, des horaires de repas réguliers. Après, on a un troisième mécanisme, et là j'ai eu la chance pendant ma thèse de sciences de travailler dans l'équipe du professeur Bourgin dessus, ce sont les effets directs de la lumière. Hein, là ici, on est dans une pièce qui est quand même assez lumineuse, donc ça nous aide à rester éveillés. Parfois, quand c'est tout sombre, en plus, quand c'est après le repas de midi, tendance à piquer un peu du nez. Donc la lumière, elle exerce un effet éveillant. Et ces différents mécanismes vont faire en sorte le moment de survenue du sommeil, la qualité du sommeil, la qualité de la vigilance, et ce qui va impacter également notre cognition et notre humeur. Et sur les expériences qu'on avait faites sur des modèles de souris, en fonction de lésions d'horloge et d'exposition à la lumière, on voyait qu'à peu près un tiers du cycle veille-sommeil de la souris était expliqué par des phénomènes, enfin l'exposition à la lumière, et des phénomènes de lumière qui ne passaient pas par l'horloge biologique. Donc comment est-ce qu'on peut se servir de ces effets directs de la lumière pour améliorer le sommeil? Ça peut nous servir d'un côté pour lutter contre la somnolence. S'il y a des gros coups de barre comme ça en journée, mais qu'on préfère ne pas trop laisser dormir la personne pour qu'elle n'évacue pas sa pression de sommeil, se servir de la luminothérapie. Parfois aussi en début de soirée, d'un côté ça aura l'avantage chez une personne qui est trop couche tôt, lève tôt, de dire à son horloge biologique « Non, non, ce n'est pas encore la nuit, il faut attendre encore un petit peu. » Donc l'exposition à la lumière peut aider à ce moment-là. Et en cas d'insomnie, le respect de la pénombre et de l'obscurité permet de lutter contre ce hyper-éveil souvent présent dans l'insomnie.
Quels sont les autres mécanismes de régulation de notre sommeil, docteur Rupert ?
Oui, donc on a encore de nombreux autres mécanismes de régulation, notamment la position allongée. Notre corps, quand il est allongé, il sait, ça y est, c'est le moment de se reposer, je peux dormir. Et ce qui va être difficile, les personnes qui ne sont pas valides, qui sont alitées, vont perdre ce réflexe, hein, c'est un véritable réflexe lié au sommeil, parce qu'ils sont trop longtemps allongés, donc leur sommeil va se déconsolider, il va se fragmenter sur toute la période qu'ils passent allongés, au lieu d'être réservés uniquement sur le besoin de sommeil. Également le métabolisme, les personnes parfois qui le soir ne mangent plus rien parce qu'elles ont peur de mal digérer, peuvent avoir des réveils précoces parce que finalement ils manquent d'énergie. Et de l'autre côté, des personnes qui prennent un repas trop riche le soir peuvent également être gênées dans leur sommeil. Il y a aussi les infections, la douleur, l'effort physique, un état inflammatoire, en fonction de la température, sont plein d'autres facteurs qui interfèrent sur notre sommeil et qu'il convient de regarder. Donc, comment est-ce qu'on peut s'en servir pour améliorer le sommeil? C'est par rapport aux besoins de sommeil d'essayer de caler, de ne passer pas plus de temps en position horizontale, couchée, qu'on a besoin de sommeil. Quelqu'un qui a besoin de 7-8 heures de sommeil par nuit, s'il est 10 heures couché dans le lit, qu'il regarde la télé dans le lit, etc., son réflexe va se se fragiliser, son sommeil va se déconsolider. Pour le métabolisme, donc, voilà, prendre une alimentation saine, régulière, ni trop riche, enfin, ni trop, ni trop peu. Éviter vraiment l'alcool le soir et les substances éveillantes. Et puis, très, très important, et d'autant plus chez la personne âgée et en cas de neurodégénérescence, de rester sur une routine quotidienne, comme chez les petits-enfants, enfin, chez l'adulte normal, hein, c'est également important. Ça rassure et ça permet à l'horloge biologique de rester mieux entraînée et également de respecter le rituel par rapport au sommeil pour que le corps comprennent, ça y est, c'est la soirée, je fais mon sas de décompression, les choses s'enchaînent pour pouvoir enclencher par rapport au sommeil. Donc on arrive sur la fin, hein, par rapport à est-ce qu'on a des comportements qui pourraient nous aider, dont on pourrait se servir pour être disease modifier, donc peut-être pouvoir impacter la trajectoire, hein, qu'on a vu tout à l'heure à un moment donné, la pente qui chute, est-ce qu'éventuellement, via une meilleure qualité du sommeil, un meilleur respect de l'horloge biologique, on pourrait modifier discrètement la trajectoire, donc les différentes stratégies, hein, qu'on vient de voir. En journée, vraiment privilégier la lumière naturelle, éventuellement la luminothérapie, éviter les siestes. Bon, après, quand on est fatigué, on a besoin d'un temps de repos, mais plutôt le faire sur une chaise, en position demi-assise, que complètement allongée. Ne pas dépasser la demi-heure, parce qu'au-delà, on risque de passer en sommeil lent profond et d'évacuer trop précocement cette pression de sommeil dont on a besoin pour bien dormir la nuit. Renforcer nos synchroniseurs. Et toujours la question par rapport à la place de la mélatonine. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci, docteur Rupert. Allez, vous avez la parole si vous voulez interroger, si vous voulez intervenir après le propos du docteur Rupert. Est-ce que vous pouvez nous parler, en attendant que je donne la parole, oui. La perturbation de ces rythmes, on en sait un peu plus, ça va être quand même une recherche chez le patient, s'il a travaillé en décalage dans sa vie professionnelle, est-ce qu'il y a des facteurs prédisposant la perte de ces rythmes de sommeil?
Oui, tout à fait, hein. On a des personnes qui ont peut-être des rythmes plus fragiles que d'autres personnes, hein, en lien parfois avec un travail posté, on a régulièrement des personnes qui ont travaillé avec des horaires atypiques toute leur vie, et puis souvent à partir de la quarantaine, où ils ont de plus en plus de difficultés à maintenir ces rythmes. Parfois, c'est suite à une période de formation où ils étaient sur des rythmes normaux, où ils n'arrivent plus à revenir sur des rythmes atypiques. Et parfois même, ils maintiennent des problèmes de sommeil alors qu'ils ont réintégré des horaires de jour réguliers. Donc, c'est également quelque chose à prendre en compte.
Bah écoutez, merci docteur Rupert. Merci d'avoir accepté. On peut applaudir le docteur Rupert pour cette intervention.